Alors, ce soir, dans Dégenré, au micro, nous avons Liane
et Sloane.
Et nous allons vous parler ce soir de la violence des femmes. Alors, on parle souvent dans les émissions féministes de la violence faite aux femmes, hein, qui est quelque chose de grave et qu'on dénonce très régulièrement. Mais aujourd'hui, eh ben, on s'est dit qu'on allait changer un peu de perspective et vous parler d'un sujet qui reste très tabou, même pour les féministes, qui est la violence des femmes. Comment penser cette violence des femmes ? On a eu l'idée de faire cette émission parce que l'année dernière, il y a un livre justement de sociologue féministe et d'historienne féministe qui est sorti, qui s'appelle « Penser la violence des femmes ». Et on s'est dit que c'était un sujet qui nous intéressait, surtout nous qui sommes militantes féministes et qui parfois pouvons user de violence. Et puis aussi, on s'est dit qu'il fallait en parler de ce livre, notamment après avoir lu un article dans le Causette numéro 28 d'octobre 2012 qui faisait un peu un point sur la violence des femmes et comment les tribunaux seraient trop cléments pour les femmes et que ce serait sexiste de la part des tribunaux. Enfin, on s'est dit, c'est une analyse un peu simplette. Et donc, nous, on a une heure et demie devant vous pour essayer, comme on pourra, de vous présenter une analyse un peu plus poussée et peut-être un peu plus féministe du traitement de la violence des femmes.
Et puis, une autre raison pour laquelle on a eu envie de faire cette émission, c'est parce que on en parle depuis un moment. Ces dernières années, c'est l'avènement du masculinisme en France et en Europe. Et on entend beaucoup de thèses antiféministes, en fait, de la part de groupes d'hommes organisés, où il n'y a pas seulement des hommes, d'ailleurs, il y a aussi des femmes, mais ils s'en font aussi l'écho dans les médias dominants. Et du coup, dans les thèses masculinistes ou antiféministes, on entend beaucoup l'argument en fait que la violence des hommes et des femmes serait symétrique et que donc les femmes dans la sphère privée useraient de violence de manière au moins égale à celle des hommes. Donc nous, en tant que féministes qui étudions la question depuis de nombreuses années, on n'est pas d'accord avec ce postulat-là. Et approcher en fait cette articulation entre femmes et violence, on espère que ce sera aussi un moyen de vous prouver, de vous démontrer que les choses sont beaucoup plus complexes à penser que ce que les médias ou les masculinistes veulent bien en dire parfois. Malheureusement, c'est eux qui ont en général le plus d'écho dans les médias dominants. Donc voilà pourquoi on présente ce sujet ce soir. Donc, on avait envie de commencer cette émission par une petite, en fait, bibliographie qui est, en fait, le cœur de notre émission, vraiment, qui se base, en fait, sur ces ouvrages-là. Donc, Liane a commencé à présenter cet ouvrage paru à la Découverte en 2012, « Penser la violence des femmes », qui a vraiment été, en fait, le socle qui nous a permis d'étudier ce sujet, qui est, un appel à contribution que Colline Cardy et Geneviève Pruvot, donc toutes les deux sociologues, ont lancé. Et donc, il est rempli de contributions très diverses qui approche la violence des femmes sous plein d'angles différents. Donc très très intéressant à lire, je vous le conseille parce qu'en fait c'est une manière de rentrer dans le féminisme aussi qui est très large et très intéressante. Donc ce qu'on peut dire sur les auteurs assez vite, Colline Cardy, elle est spécialisée dans la déviance et le contrôle social des femmes. Et Geneviève Pruvot en criminologie, système pénal et criminologie féministe. Donc cet ouvrage, pour le synthétiser très vite, il revendique un égal accès des femmes à la violence et une égale reconnaissance de son usage, même si les auteurs indiquent bien dans l'introduction ou la conclusion de l'ouvrage qu'elles ne le font pas dans le but de prôner la violence. Voilà. Mais en tout cas, elle a le mérite de mettre à plat un sujet qui a été très peu étudié. Donc, en tant qu'objet scientifique, la violence des femmes reste quasi un impensé. Jusque dans les années 2000, on peut quand même noter l'existence d'un autre livre qui est aussi le fait de contributions de chercheurs et chercheuses et qui a été fait sous la direction de Cécile Dauphin et Arlette Farge, qui sont toutes les deux historiennes. Ce livre s'appelle « De la violence et des femmes » et il est paru en 1997 à la bibliothèque Albin Michel. Alors, dans ce livre-là, il s'agit plus en fait de penser l'articulation entre la violence des femmes et la violence faite aux femmes à travers de nombreux exemples historiques qui vont en fait de la Grèce antique à la période révolutionnaire en passant par l'Espagne de 36, etc. Donc c'est très varié et ça donne des bonnes perspectives historiques. Dans cet ouvrage, alors, ce qui est peut-être à retenir, c'est que les auteurs soulignent en fait le dimorphisme qui existe entre la violence faite aux femmes, qui est donc visible, énorme, très grave dans ses conséquences, et la violence des femmes, qui est donc un phénomène moins étudié et sur lequel elles disent qu'il y a une urgence en fait à se pencher aussi pour que les femmes aient un accès à l'égalité. Enfin, le dernier ouvrage sur lequel on s'est appuyé, c'est un ouvrage plus polémique et plus difficile à approcher pour nous. Il s'appelle « La violence des femmes, histoire d'un tabou social ». Lui, il est sorti chez Max Milo en 2011 et il a été écrit par un historien qui s'appelle Christophe Regina. Donc ce livre, il est à prendre avec beaucoup de précautions parce que son auteur, justement, se trouve assez proche en fait, des thèses masculinistes. Je dirais que c'est un pro-masculiniste, sans en être vraiment un. Et qui, en fait, sous couvert d'égalité et de lutte féministe, parce que c'est vraiment comme ça qu'il se présente, il essaie justement de nier la teneur de la symétrie entre hommes et femmes. Et quelque part, il participe à nourrir l'imaginaire pas de la, justement, de la mégère qui bat son mari impuissant parce que celui-ci ne pourrait pas se défendre, parce qu'il serait trop risible aux yeux de la société. Et juste pour la petite anecdote, une citation du coup qui reprend du livre de Jean Chénet, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, où il nous dit, je cite, « Il est autant de mégères que de brutes ». Voilà, donc c'est une manière de dire qu'il y a autant de femmes qui battent leur mari qu'inversement. Et du coup, ben, ça, c'est quelque chose qu'on essaiera de vous montrer qui est justement, qui n'est pas vrai. Et que d'après Christophe Regina aussi, voilà, ça, il est tout le temps, comme beaucoup de masculinistes, en train de dire que... en fait, les femmes sont trop systématiquement rangées dans la catégorie de victimes. Et donc, pour lui, l'égalité totale entre les sexes ne sera atteinte que quand sera reconnu aux femmes leur pouvoir de violence. C'est pour le moins simpliste. En tant que féministe, on dit aussi qu'en fait, il faut qu'on reconnaisse aux femmes le droit d'exercer la violence. Mais c'est certainement pas le seul point qui permettra aux femmes et aux hommes d'atteindre l'égalité, selon nous. Voilà, donc pour une petite présentation de nos sources et une petite bibliographie, si vous avez envie de creuser le sujet. Alors, pour entrer justement dans le vif du sujet... essayons de définir qu'est-ce que ça pourrait être la violence. Alors la violence, c'est un terme complexe, vous l'aurez compris, et c'est un terme qui intéresse les philosophes, les psychologues, les sociologues, les historiens, les chercheurs et la société civile en fait depuis des siècles. Beaucoup essayent d'en donner une définition et bien sûr tous ne tombent pas du tout d'accord. On peut faire deux grandes catégories au niveau philosophique. Alors là, on va essayer de pas trop rentrer dans l'intellectualisme et le conceptualisme, si ça se dit, je sais pas. Mais en gros, on a les deux philosophes Hobbes et Hegel qui pensent que la violence est intrinsèquement liée aux êtres humains, contre Rousseau et Proudhon qui disent qu'elle est inhérente à la vie sociale et aux contraintes de la vie sociale. Nous, on va plutôt penser la violence de cette manière-là. Avec cette approche-là, voilà, liée aux contraintes de la vie sociale plutôt que intrinsèquement dans la nature humaine. C'est une approche qui nous intéresse moins. En tout cas, ce sur quoi on peut être sûr, c'est que la violence prend des formes très différentes. Elle est donc multiple, elle est protéiforme et que surtout, insistons bien là-dessus, elle est toujours à contextualiser. Pour comprendre la violence, il faut savoir dans quel contexte elle se situe et aussi quels intérêts elle sert. Alors, suivant les époques et les situations, et bien sûr, on ne voit pas le même acte, la même parole comme violente. Évidemment, ce qu'on pourrait considérer comme violent aujourd'hui ne l'aurait peut-être pas été il y a deux siècles. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de la perspective historique. La violence est aussi quelque chose qu'on peut qualifier de performatif. On peut dire tout simplement « est violent », ce qui est reconnu comme violent. Donc, il faut analyser qui en parle, qui parle de cette violence. Il faut aussi donc rappeler l'importance d'un point de vue situé. Et ça, c'est l'apport de la sociologie, hein, l'histoire du point de vue situé, qui essaye de comprendre comment une situation de violence peut exister et les formes qu'elle peut prendre, mais aussi qui, en fait, la formule. Et donc ça, c'est extrêmement important pour approcher ce sujet. Parce que, par exemple, si on se cantonnait à étudier les sources judiciaires, par exemple... Et qu'on en restait là, par exemple si on prenait des sources judiciaires du 19e siècle, et ben on passerait à côté du fait, si on oublie le point de vue situé des auteurs qui parlent de la violence et qui construisent la violence, on passerait à côté du fait que la plupart des personnes qui travaillaient du côté de la justice à cette époque, et du coup qui classifiaient les actes de violence des femmes ou des hommes, étaient eux-mêmes des hommes. Donc évidemment, leur point de vue donne une image particulière de la violence des femmes, notamment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici, mais aussi de manière générale. Pour un petit détour par l'étymologie, alors le mot « violence », il vient du latin « violentia », qui signifie à la base « usage abusif de la force » ou « caractère emporté », mais aussi « déchaînement des éléments naturels ». Enfin, ce mot, il renvoie aussi au terme « violare », qui signifie « violer une loi » ou « enfreindre le respect dû à une personne ». C'est à la fois une transgression des lois, mais aussi quelque chose de structurel. On peut par exemple parler de violence d'État. Et enfin, pour finir sur cette petite définition de la violence a toujours un motif. Il n'y a pas de violence gratuite, elle est toujours motivée. Donc il faut voir ce qui pousse à la violence et bien sûr si c'est jugé légitime ou pas par la société dans laquelle on se trouve. Et enfin, une dernière petite définition d'une féministe qui s'appelle Joanne Scott, qui nous dit, pour résumer ce qu'elle pense être la violence, « La violence est une façon première de signifier des rapports de pouvoir ».
Eh bien, super. Alors, donc, après cette petite partie sur la définition de ce qu'est la violence en elle-même, on va voir un peu quelles ont été les phases historiques dans la manière de penser cette violence. Et on verra ça après une petite pause musicale.
J'ai beaucoup parlé, non ?
Où est ma colère, ma colère? Sur quel terrain l'ai-je semé? Quel détour m'ont fait? M'ont fait l'oublier. l'as-tu décimé? Décimé. Que j'avais, que j'avais sauvé, ma colère,
Rebonsoir, donc vous êtes sur Radio Kaléidoscope 97 FM sur l'émission Dégenrée. Et donc ce soir, on vous parle de la violence des femmes. Donc vous venez d'écouter Ma colère, une chanson de Françoise Breu, et qui, donc, comme vous l'avez vu, parle. De
la colère.
De la colère et de la perte de cette colère et de combien elle est aussi importante, elle nous nourrit d'une certaine manière. Donc, tout à l'heure, Sloane, tu nous as dit que pour appréhender la violence des femmes, c'était important de la contextualiser et donc de voir un peu dans quel contexte historique, notamment, elle se produit et dans quel contexte historique est-ce qu'on la pense aussi, puisqu'on l'a pensée de manière différente aux différentes époques. Alors, est-ce que tu peux nous parler plus précisément de cette question ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, pour une petite historiographie du lien entre femmes et violence, qui ne sera pas du tout exhaustif, parce qu'en fait, et forcément un petit peu comme tronqué, parce que très rapide, mais j'ai quand même essayé. Alors, en gros, l'idée, c'est que si on prend le XVIIe siècle, la violence des femmes à cette époque ne choque pas plus que celle des hommes, parce que c'est une période où il y a une relative indifférenciation des genres, ou plutôt, en fait, le dimorphisme des rapports sociaux de sexe n'est pas basé, à l'époque, sur l'idée d'une différence de nature entre hommes et femmes. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas du tout qu'à cette époque, il y ait une forme de misogynie et aussi des violences faites à l'encontre des femmes. Mais disons que l'idée de nature féminine et de nature masculine est moins forte que, par exemple, au XIXe siècle, ce qui fait aussi que la violence des femmes choque moins. Voilà ce qu'il faut retenir à peu près. Ensuite, on passe au XVIIIe siècle, et là, on assiste plutôt à une grande inégalité entre les sexes. Dans l'imaginaire collectif, en fait, les femmes sont vraiment vécues comme le drame de l'homme, et surtout, ce sont des imbéciles. Alors, même s'il y a cette grande inégalité entre les sexes et qu'elles sont vues de manière très péjorative, les femmes, il y a aussi une grande mixité à l'époque, et notamment dans les villes. Et on dit des femmes à l'époque qu'elles sont violentes parce qu'elles regardent sans broncher les exécutions. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui regardent sans broncher les exécutions à l'époque. Les exécutions à l'époque sont plutôt nombreuses, et les hommes aussi les regardent. Et en fait, tout simplement parce que c'est une époque où il y a une véritable fascination collective pour la violence, une violence que nous, aujourd'hui, on ne pourrait pas supporter, qu'on ne pourrait pas admettre, mais qui, à l'époque, est beaucoup plus présente. Néanmoins, à cette époque, il y a aussi une relative tolérance à l'égard des femmes infanticides, qui va avoir cours jusqu'au XIXe siècle. Et en fait, cette relative tolérance, elle est relative, donc avec les femmes qui tuent leurs enfants, elle va se renverser avec l'invention de l'amour maternel qui n'a rien d'inné, en fait, qui est bien une construction culturelle qui va se mettre en place à peu près au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Justement, le XIXe siècle, c'est un siècle qui, surtout à la fin... Alors, les découpages en siècles, c'est toujours un petit peu compliqué parce que, bien sûr, la réalité est plus complexe. Mais voilà, c'est une manière de faire des catégorisations pour essayer de synthétiser. Donc, la fin de ce siècle est très misogyne. Et cette misogynie, elle se fait aussi en réaction à une forme d'émancipation des femmes. C'est un siècle où l'altérité, en fait, entre les hommes et les femmes se renforce. Et où, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée de nature féminine est très marquée. Alors, une des hypothèses que j'ai pu lire sur la question, je ne sais pas si elle se vérifie, mais je la trouvais quand même intéressante, c'était que cette idée de nature féminine pardon, plus marquée, elle était peut-être là pour masquer en fait, le grand absent de ce siècle, qui serait donc Dieu et le roi, qui en fait, tout au long de ce siècle, sont déchus. Donc il y aurait une sorte de déplacement de la fascination que les hommes, que les êtres humains ont pour Dieu, à la femme, en fait. Donc, ce qui est assez étrange, c'est que d'un côté, on adule les femmes, mais surtout dans leur rôle de mère, et en même temps, on leur refuse l'égalité au nom de la nature, parce qu'en fait, elles seraient incontrôlables de par leur nature. Voilà, ça renvoie vraiment à l'imaginaire de la femme. Ça renvoie à l'imaginaire d'Ève, en fait, qui aurait croqué dans la pomme et incité Adam à commettre un péché. Donc, et on les voit aussi en fait comme des véritables tyrans. Alors, dont on dit qu'elles sont doublement coupables, car non seulement elles sont tyranniques, mais en plus elles se déclarent victimes de la violence des hommes, ce qui en fait a toujours cours au XXIe siècle, hein, cette idée préconçue. Voilà. À cette époque, il y a énormément d'études qui sont produites sur les femmes violentes. Parce que c'est l'essor de la psychanalyse, et donc il y a toute cette idéologie des femmes qui seraient jugées hystériques. Donc il y a vraiment la pathologisation de la violence des femmes, encore une fois reliée à leur idée de nature incontrôlable, de créature. Et la psychologie et la psychanalyse, à cette époque, elles essayent, c'est vraiment des disciplines qui veulent rationaliser en fait cette sensibilité des femmes et en fait ces excès en fait des femmes, et elles veulent l'expliquer pour mieux les maîtriser. C'est encore une manière en fait de les contrôler. Il y a aussi l'idée très marquée déjà à cette époque et encore cours aujourd'hui que les femmes qui sont issues des classes défavorisées et des classes racisées aussi seraient bêtes. Et surtout serait dangereuse. Donc ça préfigure tous les préjugés racistes et sexistes qui vont avoir cours au XXe siècle. Qui, lui, le XXe siècle, est un peu différent puisque le focus, en tout cas dans la première moitié du XXe siècle, est surtout fait sur la violence faite aux femmes. Alors là, on peut noter l'apport du féminisme, en fait, qui est un peu son essor. Les femmes violentes existent encore, mais donc c'est que des figures pathologiques, donc des figures à soigner, des figures à enfermer, mais encore plus à soigner. Et jusque dans les années 70, y a cette idée aussi incroyable que la délinquance féminine serait liée aux hormones. Donc on est encore bien dans l'idée d'une nature féminine, et on parle même de crise physiologique. Alors les crises physiologiques seraient liées en fait à la menstruation, à la perte de la virginité, à la ménopause, à la grossesse. Bref, tous les éléments en fait biologiques reliés aux femmes, et bien soi-disant elles dérégleraient l'essence de la femme et elles faciliteraient en fait le passage à l'acte violent, à la colère, ce qu'on appelait avant les humeurs en fait. Et donc notamment il y a cette idée que chez les mineurs il y aurait un moment clé. Ce serait celui de la puberté, en fait, qui pourrait déterminer la future délinquance des jeunes filles. Et d'ailleurs, dans les années 90, eh bien, il y a vraiment un retour en force de ce type de problématique naturalisante, essentialisante. Et on pense que l'irruption précoce des menstruations chez les femmes encourage les comportements marginaux. Donc ça, c'est quand même des thèses qui sont défendues encore dans les années 90.
Et alors, dans l'introduction du livre « La pensée, la violence des femmes », il y a un exemple qui est donné là, par rapport justement à cette vision vraiment essentialiste de la violence des femmes. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler ? C'est vraiment un exemple très frappant.
Ah, je ne me rappelle plus de quel exemple tu parles.
De ce centre de détention.
Oui, tout à fait. Eh bien oui, comme les femmes ont et les jeunes filles auraient des comportements marginaux, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore une fois, il faut les contrôler. Donc il faut contrôler leur corps et il faut absolument contrôler leur sexualité déviante. Et donc, en mars 2003... Donc là, c'est quand même très récent. C'est la construction en France du premier centre éducatif fermé pour jeunes filles. Il est construit dans l'Allier, ce centre. Et en fait, il est extrêmement sexiste dans la manière même dont on pense en fait la délinquance des filles et dont on pense les filles, parce que pour rentrer dans ce centre, il faut, par exemple, donner ses mensurations, qui serait jamais demandé à des garçons qui rentreraient dans un centre éducatif, qui est en fait une tôle, hein, faut bien le dire, c'est une prison. Et aussi, on leur demande un test de grossesse. Voilà. Et donc, le projet éducatif du centre, il est énoncé en ces termes, c'est faire que les adolescentes puissent s'associer positivement à des rôles féminins. Donc, comme on estime que le féminin, c'est lié à la féminité exacerbée, au fait de prendre soin de soi, d'être jolie, eh ben, ces filles-là, elles ont droit, mais elles sont surtout obligées en fait, de voir des esthéticiennes, de voir des coiffeuses, et elles doivent suivre des cours de chant, de danse et de composition florale.
Et là, vraiment, on retrouve les préceptes d'éducation du 19e siècle et même plus vieux que ça. Et c'est quand même assez impressionnant. Mais surtout, ça montre bien que dans ce centre éducatif fermé dont tu dis qu'il est une prison, effectivement, le but de ces cours de chant et de composition florale, hein, c'est de remettre ces jeunes filles dans le droit chemin et donc de leur... De contrer leur violence. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de se dire en fait, elles ne doivent pas être des vraies filles, ces filles, si elles sont violentes. Hein. Donc, on va les rendre vraiment filles. Et là, on voit bien combien, en fait, la violence des femmes, c'est quelque chose qui n'est pas pensé comme naturel hein, et qui est vraiment pensé... On considère souvent que les délinquantes féminines... sont en fait un peu trop des hommes.
Ah oui, c'est ça, c'est systématique. En fait, quand on dit que la violence féminine, c'est un impensé, c'est vraiment parce que si elles sont violentes, eh bien, du coup, on ne peut pas s'empêcher en fait, de faire la comparaison avec les hommes. Et si elles dépassent un certain stade de violence, c'est forcément qu'elles ne sont pas des femmes et qu'elles sont des hommes.
Ou alors qu'elles ont des petits problèmes hormonaux qui les... rapprocherait voilà. Peut-être un peu trop des hommes.
Ce qui sont juste, en fait, encore une fois, des explications simplistes pour des problèmes sociologiques qui sont bien plus complexes que ça et bien plus difficiles à penser, en fait.
Puis ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'on voit bien qu'en fait, il y a des périodes qui sont bien plus violentes que d'autres. Et puis, les historiens et les sociologues ont bien montré, en fait, que petit à petit, les sociétés sont de moins en moins violentes, hein, encore aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de la violence, on voit bien la courbe, elle va plutôt vers une paix plus grande, en fait, dans les sociétés. Et parallèlement, en fait, la violence des femmes est de plus en plus étudiée, de plus en plus scrutée, en fait, et on a toujours l'impression qu'elle est de plus en plus importante. Alors que si la violence en général diminue, on s'imagine bien que qu'elle soit des hommes ou des femmes, elle doit sûrement diminuer avec les siècles en fait. Mais on voit bien là qu'il y a un renversement un peu. Moins il y a de violence et plus en fait on se demande pourquoi est-ce que ces femmes sont si violentes.
Exactement. Et du coup, on va refaire une petite transition musicale avant de passer dans le vif du sujet, la violence des femmes.
Heart wins. pam ram pa pa pam ram pa pa pam man down ram pa pa pam ram pa pa pam ram pa pa pam man down mama mama I just shut a man down in Central Station. Rum pa pa pam, rum pa pa pam. Man down, rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Man down, mama, 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 I just shut a man down in Central Station. And life so soon when me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me say one man down. Oh, me say ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh mama, 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 I just shut a man down in Central Station.
Alors voilà, on vient d'entendre Rihanna, Man Down, donc un homme à terre. Et dans le cadre de notre émission sur la violence des femmes, il nous a semblé opportun de passer cette musique où en fait, effectivement, c'est une musique qu'on entend beaucoup, mais on ne sait pas forcément de quoi elle parle. Et donc là, il s'agit bien d'une femme qui a tué un homme. Donc je ne sais pas, mon anglais n'est pas assez bon pour savoir quelles sont les raisons. Mais en tout cas, ça sonne un petit peu comme une riposte. Et aussi dans cette chanson, c'est intéressant parce qu'on voit en fait la culpabilité que peut engendrer cet acte de la part de la femme, en l'occurrence, là, que Rihanna incarne. Et du coup, la culpabilité par rapport aux violences des femmes, c'est quelque chose qui est à noter parce qu'effectivement, la violence des femmes, la violence que les femmes exercent, elle n'est pas seulement contre les hommes ou contre les enfants ou je ne sais qui, elle est aussi contre elles-mêmes. Et la culpabilité, c'est aussi une forme de violence que les femmes se renvoient à elles-mêmes. Alors voilà, pour entrer encore plus dans le vif du sujet, on va demander à Liane de nous faire un petit topo sur l'articulation entre femmes et violence.
Alors, en lisant un peu l'introduction du livre « La pensée et la violence des femmes » de Colleen Cardy et Geneviève Pruvot, on voit que elles interprètent, disent dans cette introduction qu'il y a en fait plusieurs cadres interprétatifs de la violence des femmes. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a un paradoxe en fait entre le fait que c'est une violence qui est niée, qui est un tabou d'une part, mais que d'autre part, pour certains types de violences, au contraire, elle est hypertrophiée, mise en avant pour faire souvent peur en fait. Et donc, elle montre bien qu'il y a comme ça un va-et-vient entre le fait de nier l'existence de la violence des femmes pour parfois, au contraire, la mettre en avant et la rendre monstrueuse en fait.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait citer quelques exemples dans l'imaginaire collectif des femmes violentes ?
Oui, alors il y a des femmes très célèbres, comme des femmes qui sont assez mythiques, en fait, comme Médée, par exemple, dans les tragédies grecques, qui mange ses enfants, qui tue ses enfants. Mais enfin, on a cette image-là de l'ogresse qui mangerait ses propres enfants, qui est un peu la figure mythique de la femme infanticide. Il y a les Amazones, bien sûr, qui sont ces femmes qui, en plus, en groupe, exercent de la violence et ont le pouvoir, en fait, grâce à cette violence. Donc, on a plein de figures. On a la figure de Jeanne d'Arc, par exemple, aussi, qui prend les armes pour défendre son pays. On a beaucoup de figures mythiques de femmes qui exercent la violence. C'est souvent, justement, elles sont souvent montées comme des exemples de... Comment dire, de...
À ne pas suivre, non ?
Oui, bien sûr, à ne pas suivre, mais aussi qui serait un peu comme... Le contre-exemple qui confirme la règle, si tu veux, c'est-à-dire, il y a des femmes violentes qu'on connaît, mais qui montrent en fait qu'elles sont tellement rares que ça prouve bien que les femmes n'exercent pas de violence.
Donc c'est une manière de mettre le phénomène un peu à distance en fait, le mythe, la légende, etc.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui.
D'accord.
La manière d'interpréter la violence, en fait, qui la cache et qui en même temps la met en avant, elles disent en fait qu'il y a trois interprétations différentes de la violence des femmes qui peuvent se croiser selon les époques, les contextes. La première interprétation, la première manière en fait de voir la violence des femmes, c'est justement de ne pas la voir. Elles disent qu'il y a ce qu'elles appellent une violence hors cadre, donc qu'on ne voit pas, qui est déniée en fait. C'est le fait de ne pas reconnaître le fait que les femmes sont violentes. Alors il y a plusieurs explications à ce déni. La première explication, elles appellent ça le déni d'antériorité. Ça veut dire que on dit toujours que c'est nouveau que les femmes soient violentes. On présente toujours ce phénomène comme quelque chose de nouveau, elles disent, pour créer une sorte de panique morale, c'est-à-dire c'est maintenant que la violence des femmes augmente et c'est maintenant qu'il faut en avoir peur parce qu'il doit y avoir un problème. C'est un peu un exemple de décadence de la société qu'il faudrait absolument régler.
Ah, comme si les femmes, en fait, et leur violence étaient un peu un baromètre de la pression sociale.
Oui, mais ce qu'elles disent, c'est que finalement, à chaque époque, on dit toujours que c'est quelque chose de nouveau. Alors que ce qu'elles montrent quand même, c'est que si on regarde, par exemple, la population carcérale, aujourd'hui, il y a moins de 4% de femmes dans les prisonniers, alors qu'en 1850, la proportion, elle était de 20%. Et qu'à la fin du XVIIIe siècle, elle était du tiers. Donc on se rend bien compte en fait que ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, la violence des femmes, puisque au XVIIIe siècle, un tiers des personnes qu'on mettait en prison, c'était des femmes. C'est bien qu'elles devaient exercer une certaine forme de violence. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une mémoire sélective par rapport à l'histoire de la violence des femmes. Et puis par rapport à aujourd'hui, ce qu'elles disent aussi, c'est qu'il y a un sous-enregistrement des faits. C'est-à-dire que les femmes qui exercent de la violence, elles sont moins incarcérées. Mais par contre, elles sont sanctionnées de manière différente, souvent plutôt psychiatrisées en fait. Que les violences sont moins reconnues par les institutions. Et donc, que par exemple, une femme qui aurait violé son enfant, comme on ne s'imagine pas que ce serait possible qu'elle fasse une chose pareille, on requalifie ça comme elle a battu son enfant, par exemple. Donc ça montre en fait combien la justice reste dans un cadre genré, hein, qu'elle ne veut pas reconnaître que les femmes sont des sujets et que donc elles peuvent aussi participer à la violence. Alors par rapport à la question de la délinquance, ça veut dire qu'elles vont moins être considérées, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit par rapport à la violence politique. Par exemple, on nie souvent le fait qu'il y avait des femmes dans des émeutes, dans les révolutions. Alors qu'après, quand on regarde attentivement, et dans ce livre, il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui reviennent justement sur ça, sur sur différents types de révolutions, différents types d'émeutes. Et en regardant bien, on voit qu'il y avait des femmes. Mais souvent, elles n'ont pas été arrêtées par la police. Et donc, on ne les a pas comptabilisées. Ou alors, elles se sont peut-être aussi parfois mieux cachées. Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est que les femmes utilisent parfois d'autres stratégies et d'autres armes que les hommes et qui ne sont pas du tout pris en compte ni par la justice, ni après par les historiens, les sociologues. Et puis une dernière chose qui fait aussi qu'on nie la violence des femmes, c'est que, par exemple, pour les mouvements féministes, ça a été beaucoup, beaucoup plus important de montrer que les hommes exercent une violence systématique envers les femmes, et que ça, c'est vraiment la priorité pour les féministes de montrer ça. Parce que on voulait faire reconnaître les femmes comme victimes de la domination masculine, ce qu'elles sont. Et puis on voulait faire reconnaître aussi le mouvement féministe comme un mouvement non violent. Et dans le MLF, par exemple, Benoît Groot a dit « le féminisme n'a jamais tué personne ». Et c'est un slogan qui est resté très connu, c'est-à-dire... mettre en avant le fait que la révolution des femmes, ce serait une révolution qui n'aboutirait pas à la barbarie ou à la terreur, comme d'autres révolutions politiques pouvaient le faire. Mais finalement, on ne sait pas si le féminisme n'a jamais tué personne. Ça dépend. D'abord, comment est-ce qu'on voit le féminisme? Et puis, si ça se trouve, il y a des groupes féministes qui exercent de la violence et puis qui, j'espère, ne se font pas arrêter. Et donc, nous ne le savons pas.
Oui, et puis on peut aussi imaginer qu'il y a des actions de femmes qui ne sont pas forcément revendiquées comme féministes, mais qui sont dans des actions de légitime défense ou d'exercice de la violence aussi, des formes de riposte féministe et d'action féministe, en fait, dans ce qu'elles portent de subversif. Et d'ailleurs, quand tu disais sur le traitement judiciaire des femmes, on pourrait aussi parler du fait qu'effectivement, les femmes sont parfois... elles vont moins en prison... parce que du coup leur traitement judiciaire est différent, mais à condition qu'elles n'exercent pas certains types de violences. Donc quels types de violences vont faire qu'elles vont être plus sévèrement punies?
Alors en fait, c'est tous les types de violences qui ne rentreraient pas dans le cadre de la vision genrée. Alors les violences envers les enfants sont... parce que là, les mères qui... touche à leurs enfants, c'est quelque chose qui est très tabou et qui est vraiment considéré comme monstrueux, puisque c'est quand même le rôle des femmes de faire des enfants, puis ensuite de les élever dans la société encore actuellement. Ce qui montre aussi, c'est que une femme qui est une mère, mais qui va exercer des violences contre un homme, par exemple, elle sera beaucoup... comment dire, elle sera jugée par exemple moins sévèrement qu'une femme qui est célibataire. Parce que une femme célibataire, en fait, on l'associe plus peut-être à un homme, ou aussi que on se dit, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la maternité, c'est quelque chose de très important, et que donc on essaye de faire en sorte que les mères restent avec leurs enfants et qu'elles ne les tuent pas ni les battent trop. Voilà, c'est un peu ça le cadre en fait social dans lequel ces questions d'incarcération et de peine.
Donc quand on dit que la justice est de manière générale plus clémente avec les femmes, comme les masculinistes le soutiennent, eh bien en fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'elle est plus clémente à certains moments, mais pas à d'autres,
non. Et par exemple, pour une femme étrangère aussi, on voit que la justice est beaucoup moins clémente avec les femmes étrangères qu'avec les femmes françaises. Enfin bon, comme d'ailleurs avec les hommes étrangers. Donc il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte dans le traitement pénal de la justice.
Alors le deuxième grand récit dont tu voulais nous parler, le deuxième cadre interprétatif, qu'est-ce que c'était ?
C'est ce qu'elles appellent des violences féminines sous tutelle. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la violence, elle peut être pensée comme soit le propre du féminin, et donc comme quelque chose qui serait propre à la psychologie ou à la biologie féminine, donc comme ce que tu nous disais par rapport aux hormones, par exemple, tout à l'heure. Ou alors la violence de certaines femmes qui est subordonnée à celle des hommes. Donc ça, c'est violence féminine sous tutelle. Ce qu'elles disent, c'est qu'en fait, c'est une manière de penser la violence comme étant donc soit quelque chose de naturel, soit quelque chose de subordonné à la violence des hommes. Et donc tout ça, ça reste dans un cadre de domination masculine où on considère que les femmes sont inférieures aux hommes. Et ce qu'elles disent, c'est que ces violences-là, en fait, la société, elle cherche à les soigner, surtout. Donc, cette violence féminine originelle, qui serait un peu la nature volcanique, quoi, qui s'exerce à travers les femmes, c'est une violence qu'il faudrait civiliser. Donc, il y a ce mythe-là de la sauvagerie féminine, qui est un mythe qu'on retrouve aussi dans des vieux mythes où dans certaines sociétés on considère que si les hommes ont les armes c'est parce que au début de l'humanité ils les auraient volées aux femmes par exemple qui les utilisaient mal et de manière sauvage et non juste par exemple donc ça a toujours un rapport avec ça en fait, on considère toujours que cette violence des femmes elle ne serait pas juste, elle serait quelque chose de sauvage. Et donc ces femmes violentes, on cherche à les soigner. Et donc il y a des thérapeutiques qui sont menées. Et c'est pour ça qu'on disait que les femmes sont peut-être parfois moins incarcérées. Mais par contre, on sait que quand elles le sont, elles sont plus l'objet de traitements médicamenteux, par exemple. Et puis que avant même en fait d'être jugée, on va souvent considérer que si les femmes sont violentes, c'est parce qu'elles ont eu des pathologies dans leur enfance, qu'on les a maltraitées, et à ce moment-là, on va plus avoir un traitement social de cette violence, en essayant de soit retirer les jeunes filles à leur famille, de les éduquer. Enfin. Et puis, ce qu'elles disent aussi, c'est que en fait, la famille, c'est quand même aussi un cadre social qui déjà traite cette violence. Que finalement, c'est quelque chose qui... Enfin, on contrôle tellement les femmes que finalement, cette violence, elle est aussi contrôlée par la société avant même... d'être contrôlé par la justice.
Donc les petits garçons, par exemple, dans l'idée, seraient moins contrôlés que les petites filles en amont, dès le départ. Et du coup, c'est ce qui pourrait expliquer que peut-être elles commettent pas les mêmes crimes ou peut-être moins de crimes aussi.
Oui, ben, la socialisation des petites filles et des petits garçons est très différente. Et effectivement, la violence est considérée comme quelque chose qui est l'apanage des garçons. Donc, en réalité, on se rend compte que quand on regarde l'éducation de plus près, on voit bien qu'on laisse plus facilement les garçons être violents que les filles dès le plus jeune âge.
Et alors du coup, dans ces deux grands récits dont tu nous as parlé, la violence hors cadre et la violence sous tutelle, on nie, c'est ce que Colin Cardy et Geneviève Pruvot expliquent dans leur livre, on nie que l'accès des femmes au pouvoir de violence puisse modifier les rapports sociaux de sexe. On nie que en fait, leur violence puisse être transgressive. Et du coup, est-ce que c'est le cas du troisième grand récit dont elle parle ?
Non, mais avant de répondre à ta question, il y a une dernière chose par rapport à cette violence féminine sous tutelle et qui a un rapport avec ce que tu dis, effectivement, de nier leur responsabilité. Elles disent aussi que c'est quelque chose qui est utilisé aussi, par exemple, pour nier les raisons de la violence des femmes. C'est-à-dire que les violences politiques, par exemple, qui ont des raisons politiques et qui sont exercées par des femmes, souvent, on nie le fait qu'elles le fassent pour ces raisons-là. Mais on considère qu'elles le font sous la coupe de leur amant, parce qu'elles sont amoureuses, parce qu'elles seraient manipulées par leurs frères, leurs pères. Leur mari, tout ça. Et donc, effectivement, c'est une manière de nier leur action, en fait, et les raisons de leur action. Alors, effectivement, il y a un troisième récit qui, lui, par contre, ne le nie pas, qui considère les femmes comme des sujets et puis qui considère que cette violence, elle pourrait transgresser l'ordre des genres et donc elle devient assez dangereuse en fait. Donc cette transgression, elle produirait un nouvel ordre social qui peut être deux choses différentes. Il y a deux interprétations. Il y a une vision comme ça de cette violence féminine qui transgresse la société qui considère que ce serait quelque chose pour amener la domination des femmes. Et ça, c'est tout ce qui a un rapport justement avec des figures un peu mythifiées comme les Amazones. Donc c'est toutes ces femmes dont on interprète la violence comme une violence pour dominer. Et puis, il y a la violence qui amènerait plutôt une indifférenciation, une égalité en fait entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est plutôt quand les femmes participent à des mouvements armés, par exemple, à des émeutes, tout ce qui est violence politique. On se rend compte quand on étudie ces violences que sur les barricades de la commune, par exemple, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Ils n'étaient pas considérés de manière différente à l'intérieur même de ces barricades, puisque à ce moment-là, ce qui comptait, c'était défendre sa rue, son territoire, son quartier, et puis défendre ses idées politiques. Et que là, femmes, hommes, enfants, c'était la même chose. Et donc là, on voit en fait que on nie souvent cette participation des femmes parce que justement, en fait, c'est véritablement là une action de sujet. C'est-à-dire, moi, je suis une femme, j'ai des idées et je vais les défendre de manière violente. L'autre chose, c'est par rapport à la violence légitime, ce qu'on appelle la violence légitime, c'est-à-dire la violence de l'État, en fait. Et là, il y a plusieurs études qui ont montré que petit à petit, il y a une forme d'égalité qui est en train de se mettre en place, puisqu'il y a des femmes qui rentrent dans la police, dans l'armée, que quand elles sont dans la police et dans l'armée, finalement, elles ont le même type de violence que les hommes dans ces mêmes institutions-là. Et il y a eu ce scandale-là de cette femme soldate américaine qui avait torturé dans la prison d'Abu Ghraib des prisonniers irakiens. Et ça avait fait un scandale énorme. Et en même temps, on s'est rendu compte par ce fait-là que les femmes dans l'armée, elles exercent exactement la même violence que les hommes dans l'armée. Mmh. C'est-à-dire une violence humiliante, sexuelle, contre les populations.
Ce qui serait finalement leur seul moyen de s'intégrer en fait, à ces institutions-là. Est-ce que ce serait ça la raison de l'exercice de leur violence aussi?
Je ne sais pas s'il y a une raison, c'est juste c'est l'armée, c'est les cons.
Oui, voilà, du coup, c'est les codes, effectivement, qu'il y a dans ces institutions-là. Et en fait, qu'on soit...
Qu'on soit homme ou femme dans l'armée, je ne sais pas si... Oui, il y a... En tout cas, on ne demande plus aux femmes d'être... d'avoir une participation différente dans l'armée. Enfin, ce n'est pas vrai, on le demande moins. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de femmes qui peuvent avoir exactement la même action que les hommes dans l'armée. Et notamment torturer, enfin tout. Bon, voilà.
Après, on voit du coup qu'au niveau des médias et de l'impact médiatique, c'est extrêmement médiatisé, alors que c'est des pratiques qui sont certainement courantes de la part des hommes, les tortures, les sévices, etc., mais qui sont beaucoup moins montrées. Donc c'est aussi intéressant de voir pourquoi on met la focale sur ce genre d'événement-là.
Oui. Et donc pour finir sur cette question, avant de faire une petite pause musicale. Marie-Elisabeth Handmann, c'est une sociologue aussi féministe, elle dit finalement que en fait les femmes ne sont ni plus ni moins violentes que les hommes, mais en fait que leur violence est sous contrôle et que les armes sont inégales. Hein. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement quel que soit le cadre interprétatif, là, la violence des femmes, elle s'exerce, mais elle s'exerce dans une société qui est dominée par les hommes. Et maintenant, on va faire une petite pause musicale.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste. Chez toi, je me poste. Te piste, t'accoste. Ensuite, te moleste. Te frappe, te brusque. Tu flippes et tu masques la piste dans ton froc et ta grippe à mes basques. Passe tous mes disques ou sinon je te confisque ces bijoux grotesques et les dents qu'il te reste. J'insiste, ajuste ma lame dans ton buste. Ne fais plus un geste, ouais, je sais, c'est injuste. Tu pleures, t'es triste, qui parle de désastre? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ton parrain est ministre. Je m'en tape complètement, quand je veux, je te dévaste. Avec ces grandes calottes que je t'administre. Putain d'opportuniste, quasi esclavagiste. Toi, t'es qui pour me rayer de la playlist? Tu disais comme ça que mon rap est néfaste. Tiens, prends ça, c'est lui qui t'encastre. J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
Et à l'improviste, à ton taf, je m'incruste. Tu cries, tu résistes, mais trop tard, tu dégustes. Petit journaliste de mon cul, tu t'offusques. Mais je t'avais dit, quand je veux, je te débusque. T'as pris trop de risques en critiquant mes textes. Mon nom, mon crew, mon style, ma casse. T'as fait l'humoriste et maintenant je te séquestre. Regarde quel contraste, t'as l'air moins enthousiaste. Ne fais pas l'autiste, car ceci n'est qu'un zeste. Un aperçu modeste des techniques que je teste. Depuis plusieurs mois, tu étais sur ma liste. Je t'ai laissé ta chance, allez, sois réaliste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
Hé, hey, toi l'artiste, viens, viens. Le grand, le robuste. Ouais, oui, oui, toi là-bas, appuyé sur l'arbuste. Oh, tu veux jouer les rustres, mais si tu persistes, je te blesse à l'aide de l'instrument de ton bassiste. On dit que tu pèses contre moi, me déteste, et raconte partout que je suis intégriste, parce que j'aime le rap de puristes qui empestent, non pas ton sale son fait avec des choristes. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Où t'as mis ton vice? T'as plus de face, et en plus, y'a ton corps qui se crispe, et puis tu rouspètes car tu prends une vraie rouste. Ne fais pas la tête si tu veux, fais mes boosts. Boost, glisse, oui, le monde est vaste. Ramasse ton pianiste et son violeuse de rasta. Avant que je te délaisse de tes bagues, de ton poste, de ta veste et de l'air.
laisse en galère, garde l'est. J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
En falche, papy. Viens pas tester. Hein, les plus détestés. Tu peux pas contester. En falche, en falche. Cassé. Ha.
C'est important de dire que, du coup, dans les grands récits qui sont faits sur elle, il y a à la fois une occultation et une euphémisation. C'est-à-dire qu'on dit que les femmes violentes n'existent pas, ou en fait, ou ne sont pas vraiment violentes. Donc ça, c'est l'euphémisation et l'occultation. Il y a aussi une déresponsabilisation, c'est-à-dire que les femmes sont violentes par nature, ou alors les femmes sont dominées par les hommes, ce que tu disais. Et enfin, il y a une émancipation. Les femmes violentes sont des Amazones, des citoyennes à part entière, des êtres humains, au-delà du genre. Donc c'est intéressant de voir que tous ces différents récits, en fait, ils s'enchevêtrent, ils sont transversaux, ils sont tous liés les uns aux autres. Donc différents types de violences peuvent être analysés au prisme de ces trois grands récits-là. Et après, il faut se questionner sur pourquoi certains récits sont plus entendus que d'autres, comme on parlait tout à l'heure du fait d'Abu Ghraib et de comment ça a été médiatisé. Et en fait, les intérêts de qui ça sert en termes sociaux, en fait. Pourquoi on visibilise ce phénomène-là et à quoi il sert. Et je pense qu'il faut toujours analyser la violence de manière générale et la violence des femmes aussi sous ce prisme-là.
Alors, pour continuer un peu avec cette question justement de la sociologie et de l'interprétation de la violence des femmes, on pourrait revenir un peu maintenant sur finalement concrètement quelle forme est-ce que ça peut prendre, cette violence des femmes. Et on voit qu'il y a plusieurs types de violences. Il y a des violences qui sont plutôt privées, qui sont par exemple les violences conjugales. Alors, si on regarde les violences conjugales, on peut déjà dire que 97% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Et donc, un peu plus de 3% sont des hommes. Donc, c'est bien la violence conjugale, une violence de genre. Hein. On a vu qu'il y a cette idée, en fait, que les délits féminins sont moins réprimandés par la justice. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est vrai pour les violences féminines qui ne viennent pas bousculer la frontière des genres. Mais par contre, si les femmes s'en prennent aux hommes, en fait, elles sont souvent autant punies que les hommes. Donc, pour ce qui est des violences conjugales, on voit bien que, bien sûr, les femmes peuvent faire usage de violences conjugales, mais on voit bien que c'est une très petite minorité de ces violences en général qui sont plutôt en fait une arme contre les femmes. Dans les violences privées, il y a aussi tout ce qui est la violence contre les enfants et notamment les infanticides. Et ça, tu l'as dit, les infanticides, c'est quelque chose qui était plutôt toléré en fait au XVIIe siècle et puis qui est devenu vraiment quelque chose de tabou avec l'essor de cette idée d'amour maternel. Ce qu'on voit, c'est que ce sont effectivement les mères qui commettent le plus d'infanticides. Ce qui paraît assez logique, puisque finalement, ce sont quand même les mères qui sont le plus souvent chargées de rester avec leurs enfants. Enfin, voilà, et que donc, elles sont plus proches des enfants. Comme elles s'en occupent plus, c'est quand même souvent plus elles qui les tuent aussi.
Oui, parce que ça, c'est encore un grand argument des thèses antiféministes, c'est de dire les hommes sont peut-être violent, mais les femmes finalement auraient le monopole de la violence dans la sphère domestique et notamment sur les enfants, puisque je ne sais plus quel chiffre lisais sur Wikipédia, je crois que c'était 70%, donc ça c'est les masculinistes qui avancent ça, 70% de la violence sur les enfants en fait serait le fait des femmes, voilà ce qu'ils disent. Et effectivement, comme tu l'expliques, c'est bien dû au fait qu'on est encore dans une société très genrée, où les femmes en fait s'occupent majoritairement des enfants. Et en fait, quand on s'occupe majoritairement des enfants et que son conjoint est peu présent pour le faire, et ben, de fait, face à des situations en plus économiques plus compliquées pour les femmes et des situations de vie en général plus stressantes pour tout un tas de raisons, et ben, effectivement, du coup, ce sont les enfants qui prennent. C'est un peu ça.
Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une partie des infanticides qui sont dus au fait que les femmes ne peuvent pas toujours choisir leur grossesse, d'avoir des enfants, et que ça reste en fait une manière de s'échapper hein, de sa condition maternelle, le fait de tuer ses enfants. Donc ça, c'est pour les violences plutôt privées, d'ordre privé. Alors il y a aussi dans les formes que peuvent prendre cette violence, il y a la question du meurtre. Hein. Donc ça c'est ce qui paraît bien sûr comme la violence ultime, hein, le meurtre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est les hommes qui sont les plus nombreux dans le nombre des meurtriers. Et puis qu'il y a des études qui ont été menées qui montreraient que la majorité des hommes en fait tueraient pour satisfaire un sentiment de puissance, hein, alors que la majorité des femmes meurtrières tueraient plutôt pour de l'argent. Et là encore, on voit bien que ça n'a pas vraiment la même signification en fait, les meurtres. Enfin, parfois ça peut peut-être avoir la même signification, mais que majoritairement ça n'a pas la même signification. Cette question de la puissance, on voit bien que c'est le fait que la violence et le meurtre aussi, ce sont des armes de domination. Tandis que finalement, le meurtre des femmes dans 75% des cas, c'est un meurtre qui est plutôt fait pour s'en sortir. Voilà. Alors, ce qu'on montre aussi, c'est que finalement, même si le phénomène augmente un peu, le phénomène des meurtres perpétrés par des femmes, ça reste quand même quelque chose de très marginal. Et si on a l'impression qu'il augmente beaucoup, c'est justement parce que c'est sur des chiffres très petits que ces augmentations se font.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que les statistiques, en fait, il faut vraiment les étudier avec beaucoup, beaucoup de recul. C'est que quand les statistiques sont extrêmement faibles, effectivement, si on a deux cas, j'exagère, là je minimise beaucoup, mais si on a deux cas et qu'en fait, l'année d'après, on en a quatre, eh ben, ça double. Donc effectivement, dans les pourcentages, c'est énorme. Mais du coup, il faut bien faire attention à comparer et à contextualiser les choses, quoi, parce que sinon, on risque de grossir des phénomènes qui sont en fait assez minoritaires encore.
Voilà, donc il y a aussi encore une autre forme que peuvent prendre donc ces violences. On l'a vu là dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui est la violence étatique, donc la violence de l'armée et la violence de la police, qui donc avant était véritablement l'apanage des hommes, et puis qui avec par exemple l'arrivée du droit de vote, avec la parité, tout ça, on se rend compte finalement qu'il y a une féminisation de ces professions. Il y a des féministes institutionnelles dans les gouvernements qui ont appuyé cette féminisation de ces professions violentes comme la police et l'armée et qui font qu'aujourd'hui les femmes peuvent user de cette violence légitime. Et puis il y a tout ce qui est violence politique, la violence de révolutionnaire, la violence de groupes politiques minoritaires, et puis tout ce qui est émeute populaire, dans lesquelles les femmes participent. Hein. Et donc ça, on l'a vu, ces femmes qui participent à cette violence-là, souvent on nie leur existence. Et quand on nie pas leur existence, on les considère souvent finalement comme étant le bras armé de d'autres hommes. Donc ça peut être le cas par exemple de femmes qui sont rentrées dans des groupes politiques armés, dont on a souvent dit, par exemple comme les femmes d'Action Directe, que si elles avaient fait ça, c'est parce qu'elles étaient amoureuse de quelqu'un qui était dans cette action politique armée. Donc des manières en fait de réduire leur responsabilité, mais aussi de réduire leur participation politique en fait. Dans cette manière de considérer que les femmes ne sont pas responsables de leurs actes, on a vu par exemple quand on a parlé des premières femmes kamikazes qui se faisaient sauter pour des raisons politiques et notamment des femmes palestiniennes par exemple, qu'on a souvent considéré qu'elles ne pouvaient pas faire ça. Hein, que soit c'était des femmes véritablement monstrueuses, soit en fait qu'elles avaient été forcées par les hommes de leur famille, par exemple.
Ok, ça fait un gros bout à digérer. Voilà, on va faire une petite pause musicale, histoire de justement bien digérer tout ça, et on se retrouve juste après.
Last words, this is the last time. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, carry on. Try to have fun in the meantime.
Bonsoir, alors vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM, sur l'émission Dégenrée, et ce soir on parle de la violence des femmes. Alors, on a vu un petit peu des typologies, des différentes violences que peuvent exercer les femmes, et puis de comment est-ce que ces violences sont vues, interprétées par les historiens, les sociologues, par la justice. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est un exemple un peu plus précis. Donc, Sloane, tu t'es intéressée à la violence, à la délinquance des mineurs, et plus particulièrement aux bandes de filles, en fait, délinquantes. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ?
Eh oui, tout à fait. En fait, on peut vraiment parler de la construction du phénomène de la délinquance des mineurs. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit en fait depuis deux siècles. Et du coup, dans les articles que j'ai lus, il y a une explication que je trouve assez intéressante du phénomène des bad girls. Alors ce phénomène, en fait, il naît au début du XXe siècle, dans une Amérique très puritaine. Et donc à l'époque, on parle du girl problem. Girl problem, pardon, avec l'intonation. Et c'est une référence aux jeunes filles, en fait, qui auraient à l'époque des mœurs complètement dissolues, dépravées. Et quand on regarde, en fait, quels étaient leurs crimes dans ce début de siècle, ça nous paraît risible. Hein. C'était parce qu'elles sortaient tard dans la nuit, parce qu'elles osaient se maquiller, s'attiffer pour séduire, et surtout qu'elles avaient des pratiques sexuelles hors mariage, ce qui, à l'époque, était une transgression énorme. Et donc, l'idée, c'est que ce comportement qui est jugé amoral, en fait, et qui touche aussi bien dans l'Amérique puritaine et plus tard en France et en Europe, des filles de la classe moyenne, mais aussi des filles de la classe ouvrière, eh ben, c'est l'idée à l'époque que ça exercerait une véritable violence morale sur la famille et sur la société. Et c'est justement, d'ailleurs, ça correspond justement au moment où la famille traditionnelle commence à vaciller, en fait, où cet ordre qui paraît immuable, mais qui ne l'est pas du tout, qui est aussi une construction sociologique, eh bien, se met en fait à trembler. Et il y a une peur des familles et une peur de la société en général de perdre le contrôle en fait sur ces jeunes filles qu'on a bien dressées jusqu'à présent, même si elles ont transgressé aussi les lois, mais à cette époque-là. Il y a une peur qui est renouvelée en fait du fait qu'elles les transgressent, et parce qu'il faut bien voir que donc ces jeunes filles, elles sont garantes de l'image de la femme, elles sont garantes de l'image de la famille, et elles sont garantes de celle du couple parce qu'elles vont être des futures épouses. Et donc à cette époque, ça justifie en fait l'éclosion des maisons de correction pour jeunes filles. Il y en avait uniquement pour les garçons. Et donc, tout au long, dans la première partie du XXe siècle, on va voir fleurir comme ça aux États-Unis et en Europe des maisons qu'on appellerait aussi des maisons d'abri, mais en fait qui sont un peu comme les centres fermés éducatifs maintenant, hein, des maisons de redressement en fait, des jeunes filles qui servent à leur inculquer les bonnes manières et surtout à les surveiller. Donc il y a un enjeu là un enjeu politique sur la gestion des corps et sur la gestion des corps des filles, parce qu'elles vont engendrer la future nation. Donc voilà, c'est quand même la vision que la société a sur ces bad girls. Il faut les contrôler parce que c'est elles qui vont faire les enfants de demain. Et si les enfants de demain sont dépravés comme elles, eh bien la société le sera et les mœurs seront corrompues. Et en fait, ce sera la diabolisation en fait, de l'Amérique de cette époque-là, qui en plus a de plus en plus peur du communisme. Donc il y a toute une idée comme ça que ces filles vont porter aussi des idées politiques. Voilà, donc on les voit comme, comme des adolescentes immatures et agressives. C'est aussi l'époque où on forge en fait le terme d'adolescente, qui est un terme très, très genré. Hein. C'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, lié à des hormones, aux menstruations, à l'idée comme ça d'une nature féminine particulière à l'adolescence. Et donc, en France, la traduction de ce terme de bad girl, en fait, ça va être la figure de la jeune fille incorrigible qui va prendre une grande place dans la société. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, la jeune fille incorrigible. Et du coup, on peut parler du film Foxfire que peut-être vous avez vu. Foxfire, un gang de filles qui est tiré d'un livre, en fait, de Joyce Carol Oates qui parle en fait d'un gang de filles justement dans les années 50 qui est assez autogérée finalement mais qui a quand même une chef et cette chef elle va justement se retrouver à un moment du film dans une institution, dans un centre de correction et on voit du coup que c'est un régime très dur. Alors après c'est toujours forcément un peu romancé pour le cinéma mais je crois qu'il y a aussi l'idée dans ce film d'être quand même assez proche de la réalité historique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est vraiment un régime pénitentiaire très dur, des femmes, des jeunes filles plutôt du coup en uniforme, avec les cheveux rasés. Ce qui est d'ailleurs très paradoxal, parce qu'en fait, elles sont quelque part, elles sont masculinisées dans la vision traditionnelle de la masculinité, parce qu'on leur coupe les cheveux, etc. Et en même temps, on voit une scène où elles sont là à chanter une chanson avec la voix au perché, une espèce de chorale de femmes comme ça. Donc ça montre aussi les injonctions contradictoires qui sont faites à l'époque aux femmes, c'est-à-dire que à la fois et aux jeunes filles, à la fois on leur dit autonomisez-vous, vous êtes autonome, vous êtes responsable, et en même temps on les contrôle et en même temps on veut les surveiller. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'aliénation un peu dans cette figure-là. Voilà, donc cette figure de la bad girl pose problème aux élites. Elle représente une menace morale, on l'a dit, donc les mauvaises mœurs. Elle va bientôt représenter une menace médicale, donc c'est toute la peur que les femmes puissent transmettre les maladies vénériennes. Donc c'est horrible, hein, mais ça a été vraiment un vrai phénomène. C'est en ayant des relations sexuelles avec des hommes différents et en n'étant pas mariées, elles peuvent potentiellement passer ces maladies-là. Donc ça peut être un fléau pour la société. Et finalement, du coup, qu'elles représentent aussi une véritable menace politique. C'est-à-dire qu'elles puissent éventuellement renverser l'ordre établi, renverser la société ou du moins la changer. Et véritablement... subvertir non seulement la norme des genres, mais la norme sociale de manière générale. Parce qu'à cette époque, ces filles, il faut bien voir que pour la première fois depuis longtemps, elles investissent l'espace social. En fait, ça fait deux siècles que les femmes, elles ne sont pas très présentes dans la rue. Et là, en fait, il y a tout un univers qui se crée, notamment dans les grandes villes, donc toute une culture urbaine où les jeunes filles sortent, où il y a des mouvements de contre-culture qui se mettent à exister. Le tout début du XXe siècle, c'est le moment aussi où il y a les garçons qui se mettent à exister, des filles très érotisées, qui ont des clubs à elles et qui ont tout un univers. Plus tard, beaucoup plus tard, ce sera le mouvement punk, etc., ou les mouvements des blousons noirs ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a toute une culture qui se crée dans l'espace public et les jeunes filles profitent du fait qu'en fait, il y a un accès au marché du travail qui s'ouvre, qu'il y a une reconfiguration de l'espace social. Et donc voilà, c'est un grand changement sociétal et comme tous les grands changements sociétaux, et ben en fait, il fait peur et les filles font peur parce qu'elles peuvent porter effectivement en germe la nouvelle société, donc tous les réactionnaires de l'époque. Ils lèvent leur bouclier et ils disent qu'ils n'en veulent pas. Si on parle de l'époque beaucoup plus contemporaine, c'est intéressant de voir par exemple qu'en 2010, Le Monde titre « La délinquance des filles explose ». Donc on a régulièrement comme ça, le Figaro en 2008, pareil, nous écrit tout un article pour nous expliquer en quoi c'est un phénomène récent. Et si on regarde sur Internet, on voit des tonnes et des tonnes de données comme ça, dans les années 90, dans les années 2000. Donc c'est un phénomène qui ressurgit en fait constamment. Donc on l'expliquait tout à l'heure, hein, y a cette histoire du déni d'antériorité. On s'étonne toujours de l'arrivée en fait des bandes de filles, des mauvaises filles, et notamment dans les quartiers, ce qui est aussi une manière raciste, hein, d'appréhender aussi d'appréhender les différentes classes sociales. Et donc on est dans un discours alarmiste, et ce discours-là, dans l'époque contemporaine, il va vraiment s'accentuer dans la fin des années 90 avec une affaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était des bandes de filles à Toulon, en fait, qui avaient, en 99, volé et racketté dans la rue, et ça avait fait pareil un tapage médiatique incroyable. Voilà, il y a cette idée vraiment qu'il y a des jeunes filles mineures et des jeunes filles délinquantes, et on ressollicite cette idée depuis deux siècles à chaque moment de grandes crises politiques. C'est une manière en fait de réassigner, de redire que l'ordre social, c'est pas celui-là, qu'en fait ce qu'on attend des jeunes filles et des femmes de manière générale, c'est de rester à leur place, et que quand elles exercent une violence émancipatrice dont on a parlé, c'est-à-dire que vraiment elles résistent à l'ordre établi et qu'elles créent d'autres cultures et d'autres manières de vivre, on les brime. Voilà, pour les histoires de gangs de filles. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas plus de gangs de filles aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, voire même, et je finirai là-dessus, si on regarde les données de ces derniers siècles, on peut vraiment se demander, comme Colline Cardy et Geneviève Pruvot le fait, mais où sont les émeutières? Où sont les femmes violentes, en fait? Elles ont complètement disparu. Si on compare les taux de violence des femmes par rapport à la Révolution française, et ben voilà, on ne sait pas où elles sont. Donc, méfions-nous de ce que les médias disent, et gardons quand même en tête que encore 95% des actes de violence grave sont commis par des garçons mineurs, et donc ça fait seulement 5% pas pour les filles. Voilà.
Merci. Slo, pour cette petite conclusion là sur les délinquantes juvéniles, qui peut-être nous écoutent aujourd'hui. Donc, on va finir là pour cette émission sur les violences des femmes. On n'a pas vraiment eu le temps de vous brosser tout ce qu'il y avait de très intéressant décrit dans tous ces bouquins, mais on a essayé de vous faire un panorama un peu général de tout ce qu'on avait lu. Un petit mot pour l'agenda. Vous êtes en train d'écouter l'émission, et en ce moment même, il y a un super film qui passe à la BAF dans le cadre d'un cycle Mauvais Genre. Ce soir, mercredi 13 à 19h30, y a Edwige and the Angry Inch. Mais ne vous en faites pas, il y aura d'autres films. Donc mercredi prochain, 20 mars... À 19h30, à la BAF, Chemin des Alpins, il y aura la diffusion de Paria, un film américain sur les tribulations d'une adolescente noire américaine de Brooklyn. Et puis, mercredi 27 mars, La fille aux allumettes, un film d'Aki Korismäki sur une jeune ouvrière finlandaise qui travaille dans une fabrique d'allumettes. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir ces films à la BAF. Et puis, cette émission sera rediffusée lundi à 18h30, et vous pourrez aller l'écouter aussi à la BAF après la permanence de la bibliothèque féministe. Et si vous voulez nous écouter, nous réécouter, vous pouvez le faire sur le site radiorageuse.net, où vous pouvez aussi écouter des tas d'autres émissions féministes.
Voilà, et bien merci de votre écoute. Merci à toi, Liane,
merci
pour ta collaboration fructueuse. Et on espère que ça vous aura éclairci sur ce sujet encore obscur de la violence des femmes.
À bientôt.